Que faut-il attendre de la mission d'observation du Forum des îles du Pacifique qui doit venir en Calédonie dans quelques jours? Nous en avons parlé ce matin avec l'ambassadrice de France dans le Pacifique. Soutenir les artisans qui font aussi face à des défis économiques importants générés par les émeutes. Nous recevons la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat, Elisabeth Rivière, à quelques jours de l'ouverture du Salon des artisans. Faut-il tirer des enseignements après les JO, notamment en matière de sécurité? C'est ce que réclament de nombreuses voix en métropole. Depuis une semaine, l'armée ukrainienne mène une offensive en territoire russe. 121 000 civils russes ont été évacués de la région de Koursk. Et puis en sport, c'était la nuit dernière pour nous, la première étape du Tour de France féminin de cyclisme. Il s'était lancé des Pays-Bas. Voilà, il s'était lancé des Pays-Bas, disais-je. Que c'est le dernier titre que nous développerons évidemment à la fin de ce journal. Avant de ça, un petit coup d'œil sur le magazine Citoyen J Ménage que l'on retrouvera, on l'espère, juste après ce journal avec vos invités. Vous parlerez de la mobilisation pour les personnes les plus démunies.
Oui, depuis le début de la crise, les associations caritatives ont été, on le sait, très sollicitées, bien que certaines d'entre elles aient aussi subi des exactions. Elles entendent poursuivre leur action auprès des populations les plus fragiles, dans quelles conditions, avec quels moyens. Ce sera le thème de ce magazine Citoyen ce midi. Nous serons en compagnie d'Elisabeth Gault, qui est présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul, de Jean-Yves Lemenant, président du Secours catholique, de Patrick Chotard, qui est président de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, et de Betty Levanquet, qui est présidente de la Banque alimentaire. Ce sera juste après votre journal.
Et puis notez que depuis le 13 mai, il y a trois mois maintenant, les équipes de Radio Rythme Bleu sont restées pleinement mobilisées. Comme chacun d'entre vous et comme toutes les entreprises, Radio Rythme Bleu a subi les conséquences de cette situation particulière dans son personnel, avec des problèmes liés notamment aux difficultés de déplacement ou à la tension ambiante. Nos équipes sont cependant restées mobilisées pour vous informer et vous accompagner, et nous avons maintenu l'essentiel de nos émissions. Mais nous avons dû aussi adapter et modifier notre grille pour faire face à la situation. Nous allons progressivement revenir à la normale et nous voulions vous signaler le retour depuis hier de deux rendez-vous d'antenne qui avaient été suspendus. Vous retrouvez désormais tous les matins à 5h50 la rubrique « Bonjour la Calédonie » qui vous fait partager l'actualité des communes calédoniennes. De la même manière, avec le retour timide des activités culturelles, nous vous proposons de nouveau la rubrique « Par ici les sorties » qui est diffusée tous les jours à 10h30 et à 16h10. Deux rubriques réalisées par Kélinda Boiscou. Le président de la République a donc donné son feu vert à la mission de médiation et de dialogue demandée par le Forum des îles du Pacifique. Décision qui a suscité un certain nombre de critiques sur le territoire et nous en avons parlé ce matin, Gilles Ménage, avec l'ambassadrice de France dans le Pacifique.
Emmanuel Macron a redit à plusieurs reprises sa volonté de voir se développer l'intégration des territoires français du Pacifique dans leur environnement régional. La mission demandée par la présidence du Forum fait donc suite à la crise insurrectionnelle du 13 mai. Et elle s'inscrit dans un souci de respect du droit international auquel la France est très attachée, a rappelé Véronique Roger-Lacan.
La France est un des États fondateurs et promoteurs du système multilatéral, c'est-à-dire du droit qui fonde les relations entre les États. Et au titre de ces principes qui fondent les relations entre les États, il y a la transparence, les échanges d'informations. Et si on parle du Pacifique, on parle beaucoup du Talanoa. En Nouvelle-Calédonie, le dialogue. Eh bien, nous sommes absolument favorables au dialogue. Quand il y a des soucis dans le Pacifique, parce qu'ils veulent tous que le Pacifique soit une zone de paix, de stabilité et de sécurité, comme partout ailleurs, eh bien, ils se parlent et ils viennent voir. C'est une mission d'observation et de dialogue, rien de plus habituel et de plus traditionnel en droit international public que cela.
La mission qui doit être menée par Mark Brown, le Premier ministre des îles Cook et les Premiers ministres des Fidji et de Tonga sera donc présente sur le territoire, notamment pour se rendre compte de l'ampleur des destructions infligées par les émeutiers et ce, avant la prochaine réunion du Forum prévue du 26 au 30 août.
Elle viendra se rendre compte des dégâts causés par une poignée d'émeutiers. Il faut bien le dire, ces émeutiers, semble-t-il, ne représentent pas ce que souhaite la majorité des Calédoniens. Et la question, c'était de faire de sorte que la mission puisse venir avant le sommet pour que les discussions au sommet tiennent compte des réalités de terrain, donc les destructions économiques, les destructions d'entreprises, les destructions d'édifices d'éducation, les destructions d'édifices religieux, la difficulté, mais voire l'impossibilité d'accès par une grande partie de la population à des soins médicaux, à l'alimentaire, à l'éducation, bref, aux droits élémentaires reconnus par le droit international public à chaque individu. Donc, le droit, toujours le droit, rien que le droit.
Et c'est cette mission sur le terrain qui, selon l'ambassadrice de France dans le Pacifique, permettra au Forum de rédiger un communiqué final conforme à la réalité.
L'idée, c'est que l'ensemble des parties prenantes, au terme de l'accord de Nouméa, l'ensemble des communautés qui doivent vivre ensemble, qui doivent créer un destin commun, seront entendues et nous définirons ensemble un langage dans ce paragraphe concernant la Nouvelle-Calédonie, de ce prochain communiqué des leaders du Pacifique qui correspondent à la réalité des choses.
Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique, invitée du matin sur Radio Rythme Bleu. Entretien à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. D'abord, cette réponse à la question d'hier. 63% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS n'approuvent pas la décision du président de la République de donner son feu vert à l'envoi en août d'une mission du Forum des îles du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 37% à l'approuver. Notre question du jour. Le succès des Jeux Olympiques de Paris aura-t-il, selon vous, des répercussions sur l'image de la France sur la scène internationale? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La Direction générale des finances publiques communique sur l'aide apportée aux entreprises du territoire. Près de 20 millions d'euros, soit 2,4 milliards de francs, ont déjà été versés à plus de 4200 très petites entreprises et moyennes entreprises au titre de la solidarité nationale. Plus de 15 000 demandes ont été déposées par les entreprises auprès de la DGFiP qui en a instruit plus des deux tiers et validé la moitié. Parallèlement, un dispositif d'accompagnement spécifique pour les entreprises les plus en difficulté a été créé début juillet. Une cinquantaine de demandes ont été formulées et sont en cours d'examen. Les premiers versements aux entreprises pourraient intervenir début septembre 2024. Et puis côté info pratique, prudent sur la route, une mobilisation de la CCAT est signalée à Poya. Des végétaux ont été placés sur la chaussée, ce qui oblige les automobilistes à slalomer. Et puis les conditions météo actuelles, perturbent les rotations du Betticho. La rotation prévue initialement pour aujourd'hui sur l'île des Pins a été annulée et reportée à demain mercredi. Tous les billets ont été automatiquement transférés sur cette nouvelle date, précise la Sud-Île. La compagnie qui, en réponse à une forte demande, a ajouté une rotation supplémentaire vers les îles Loyauté. Elle est prévue dimanche 18 août dans le sens Nouméa-Marée-Lifou-Nouméa. La vente des billets est ouverte sur le site betticho.nc ou se fait par téléphone au 260-100, le 260-100. 11h38, dans un instant, nous parlerons du salon de la Maison des Artisans qui doit s'ouvrir du 15 au 18 août. À tout à l'heure.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. En panne de cash, marre du chèque, optez pour le portefeuille électronique CFP. Particulier, échangez de l'argent, remboursez vos amis, payez chez vos commerçants affiliés sans aucun frais. Simple, instantané, sécurisé et 100% gratuit. Commerçant, encaissez à moindre coût depuis votre mobile ou tablette et sans engagement. Si vous n'utilisez pas l'application, elle ne vous coûte rien. CFP, le portefeuille électronique qui vous simplifie la vie, sans frais. Rendez-vous sur www.cfp.nc pour plus d'infos et télécharger l'appli.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Ne pas laisser tomber les artisans qui font face aussi à des défis économiques importants générés par les émeutes. C'est aussi pour les soutenir que la Chambre des métiers et de l'artisanat organise un salon des artisans. Il y aura lieu du 15 au 18 août, c'est-à-dire à la fin de la semaine. Nous en parlons avec Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous avait reçu dans les Jeudis de l'économie pendant cette période de crise où nous aviez partagé les difficultés que rencontraient les artisans. Ce salon, c'est l'occasion de les mettre en valeur, c'est une vitrine pour eux, c'est de montrer aussi qu'ils continuent à travailler et à produire.
Alors oui, effectivement, pendant cette crise, les artisans ont été beaucoup touchés. On met en place des choses et là, il nous semblait important de pouvoir les ramener au contact d'une clientèle pour ceux qui, aujourd'hui, n'ont plus la possibilité d'avoir des clients et d'amener aussi une certaine dynamique dans le monde économique parce que ce salon est bien sûr ouvert en priorité à nos artisans, mais à l'ensemble du monde économique pour permettre de redynamiser les choses et aussi pour les personnes de partager un moment de rencontre et d'échange.
Il y a vraiment beaucoup d'artisans qui ont répondu présents pour ce salon. Ils en ont besoin, dans quelque part.
Alors oui, ce salon est complet et même au-delà du chiffre escompté, ce salon est rempli et effectivement, les artisans et l'ensemble du monde économique a besoin de ce type d'opération.
Un mot encore sur ce salon, c'est des artisans, je veux dire, de différents corps de métier. On trouvera vraiment beaucoup de choses très différentes à la Maison des Artisans pendant ces 4 jours.
Alors oui, normalement, au mois de juillet, nous avions le salon du jardinage. Et comme compte tenu des événements, il n'a pas pu avoir lieu, nous avons décidé de faire un mixte un petit peu de tous les métiers de l'artisanat. Et ce salon donc, s'appelle le Salon des artisans calédoniens. Donc dans différents secteurs, vous allez pouvoir retrouver des artisans dans le domaine de la construction, soit pour aménager votre intérieur, peut-être faire des travaux, dans des créateurs aussi avec des produits, puisque nous savons que tout l'artisanat d'art a été fortement touché, qu'il n'y a plus beaucoup de clientèle touristique, que certains avaient des stands à la gare maritime et donc aujourd'hui n'ont plus de clientèle, donc nous les ramenons vers une clientèle.
Alors le monde de l'artisanat en général est constitué de très petites entreprises, c'est à la fois une difficulté quand on est touché par la crise parce que ça fait beaucoup de choses à gérer, c'est aussi, on le souligne de temps en temps, une chance parce que ça permet, on emploie beaucoup ce mot, de l'agilité et du rebond possible. Aujourd'hui les artisans sont dans cette double problématique à la fois de faire face et puis d'essayer de trouver des pistes de sortie.
Alors oui, comme vous le dites, ont une chance, les artisans ont une chance parce que des fois ils sont petits, j'utiliserai pas ce mot parce qu'aujourd'hui c'est quand même très compliqué pour l'ensemble des artisans sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie et encore plus compliqué sur la partie sud de la Nouvelle-Calédonie, le Mont d'Or et mais je n'oublie pas aussi les artisans de Yaté parce que nous avons aussi une centaine d'artisans sur Yaté qui subissent comme les artisans du Mont d'Or la difficulté de pouvoir aujourd'hui exercer leur métier. Alors oui, effectivement, les artisans, des fois, c'est facile de pouvoir rebondir, mais c'est très compliqué puisque c'est souvent la seule ressource pour une famille et on sait combien d'artisans sont en grande souffrance avec leur famille parce que aujourd'hui, ils n'arrivent pas pour l'ensemble à concrétiser les projets qui sont en cours et poursuivre leur activité qui leur permettent de faire vivre une famille. Le soutien, il y a bien du soutien de l'État, mais cependant, ça arrive, mais pas aussi rapidement que le besoin est identifié.
C'est les réseaux de vente aujourd'hui qui sont le plus problématique en raison de la difficulté de transport, en raison de structures qui ont disparu.
Alors oui, il y a le réseau de vente, mais il y a aussi le réseau d'approvisionnement. Et sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, il est encore difficile pour certaines entreprises éloignées dans le nord ou parfois dans les îles d'avoir les matériaux nécessaires pour pouvoir travailler.
Alors, parallèlement à ce salon, parlons aussi du centre de formation des apprentis, hein, parce qu'on sait qu'il a été quasiment entièrement détruit au moment des émeutes. Vous avez trouvé des solutions, j'allais dire, de remplacement avec un certain nombre de partenaires qui accueillent ces élèves en formation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble des formations a repris et que le CFA, même si ce n'est pas dans les lieux habituels, a retrouvé son rythme de croisière?
Alors, l'ensemble des formations n'ont pas reprise. Certaines formations ont pu reprendre parce que nous avons pu être accompagnés par des entreprises qui nous ont mis leurs ateliers à disposition. Pour tout ce qui est cours fondamentaux, nous avons la ville du Mont d'Or avec laquelle nous venons de signer une convention pour la mise à disposition d'une ancienne école qui était aujourd'hui désaffectée et nous tenons à les remercier parce que ça va nous permettre d'avoir vraiment un point de chute pour l'ensemble de nos alternants mais aussi pour nos formateurs qui ont besoin tous de se retrouver.
Les alternants et les apprentis ont repris du poil de la bête si j'ose dire, ils sont réinvestis dans leurs études. Parce que voilà, ils attendent pour certains diplômes à la fin de l'année, ça a été compliqué. Est-ce que vous sentez qu'il y a une remobilisation dans ce secteur ?
Alors je dirais pas une remobilisation. Je crois que ils font partie des artisans et comme les artisans, eh bien, on sait qu'il y a des difficultés et ces jeunes ont su rebondir, s'accrocher pour certains parce que ils étaient dans des conditions difficiles et donc ils se sont accrochés. Mais je crois que la façon de remettre les choses en place leur a donné encore à nouveau, on va dire, des petites étoiles dans les yeux, parce qu'aujourd'hui, la moindre chose bénéfique donne de l'espoir à cette jeunesse et on a vraiment besoin de leur en donner.
Revenons sur ce salon des artisans du 15 au 18 août. À la Maison des Artisans, Elisabeth Rivière, c'est évidemment un lieu ouvert à tous. Vous voulez aussi en faire un lieu de rencontre et d'échange.
Bien sûr, c'est un lieu ouvert à tous. C'est complètement gratuit. Et l'idée, effectivement, c'est de faire un lieu de rencontre et d'échange, de venir découvrir la passion qu'ont les artisans, les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui et que malgré ces difficultés, ils arrivent à produire. Et c'est important aujourd'hui de se retrouver tous ensemble pour pouvoir avancer en Nouvelle-Calédonie.
De 9h à midi et de 9h à 18h, c'est ouvert toute la journée.
Et c'est ouvert toute la journée et jusqu'à dimanche matin, jusqu'à midi.
Merci beaucoup Elisabeth Rivière d'être passée dans nos studios pour nous parler et de ce salon des artisans et de la situation de l'artisanat en Nouvelle-Calédonie.
Merci beaucoup.
Ce sont aussi les vacances scolaires et le parc forestier part à cette occasion à la rencontre des enfants de l'association DAOVI. Chaque vacances, l'association organise généralement des activités au sein du parc, mais cette année, avec la réouverture récente simplement du parc et la conjoncture actuelle, les enfants ont passé leurs vacances au sein d'une école et c'est une intervenante du parc qui est venue leur proposer une activité.
J'y viens presque toutes les vacances et ce que j'aime bien ici, c'est faire des dessins, faire des petits cours avec écailles, poils et plumes.
On joue beaucoup au foot, au basket et le matin on fait des dessins. Là-bas il y a un atelier macramé.
On a fait un jeu avec une dame qui était venue, c'était une dame de parc forestier pour nous apprendre des choses sur la forêt sèche. Sur la forêt sèche.
On a fait une sorte de jeu de loi mais avec la forêt sèche. Il y avait des cases mauvaise action et bonne action. Il y avait aussi des questions. On a fait deux parties comme ça et notre équipe a gagné.
Le DAOVI est un centre de vacances qui existe depuis 2018. Il travaille en partenariat avec le parc forestier. La fermeture du parc a bloqué son activité depuis le début des émeutes. La crise a aussi créé un manque au niveau du personnel, explique Yves Restoul, le directeur de l'association.
Habituellement, nous sommes au parc forestier. Là, actuellement, nous sommes délocalisés sur une école. Mais nous allons reprendre le parc forestier à partir de mercredi de la rentrée. Je crois que c'est le 21 août. On a été fermé une petite période, au mois de mai, début juin. Sinon, il y a beaucoup de départs. Mais on n'a pas une grosse perte des effectifs. La plus grosse difficulté, ça va être de trouver des animateurs qui puissent venir travailler. Donc, nous avons mis en place une série de navettes pour récupérer et ramener les équipes. Au niveau des conventions, il y a juste eu le parc forestier qui a été fermé de période, mais nous avons continué à travailler avec eux et il n'y a pas eu de vraies difficultés.
Et pour plus d'informations, vous pouvez joindre le centre par mail à centreloisirs.daovi@gmail.com, centreloisirs.daovi@gmail.com. Certains buralistes de Nouméa enregistrent une hausse des ventes de tabac, mais cette augmentation n'est pas liée à la consommation qui est plutôt stable, selon la régie des tabacs Isabelle Pelletier.
Oui, cette augmentation constatée par certains buralistes est en fait la conséquence de la diminution du nombre de bureaux de tabac dans le Grand Nouméa, qui sont nombreux à avoir été brûlés, et aussi de difficultés d'approvisionnement de certains points de vente liés au barrage, les précisions de Pierre Emery, chef de service de la régie des tabacs.
Depuis le début des événements, il y a beaucoup de magasins qui ont brûlé, qui ont été saccagés. Il y en a aussi certains qui ont fermé parce qu'ils ont eu peur, puisque les gens n'arrivaient plus à y aller, eux-mêmes n'arrivaient plus à aller dans leur commerce. Et du coup, il y a certains commerçants qui ont réussi, eux, malgré tout, à travailler et s'approvisionner en tabac. Et donc, effectivement, ces commerçants vendaient beaucoup plus de tabac, mais essentiellement parce que les autres étaient fermés. Puis maintenant, à peu près un mois, la situation est redevenue à peu près correcte, sauf essentiellement pour le Mandor et un petit peu moins pour la Brousse, puisqu'il y a quand même beaucoup moins de barrages en Brousse en ce moment.
Même son de cloche pour ce buraliste de Nouméa qui constate une hausse de ses ventes de tabac, mais aussi une perte de clientèle et une augmentation des vols.
Comme il y a moins de tabac, on vend plus de tabac. Mais comme il y a des personnes qui ont dû partir, on ne vend plus le reste. Comme on est moins margé sur le tabac, on gagne moins. Voilà. Ben, voler, oui, il y a beaucoup de tentatives. Tout ce qui tombe sur leurs mains. Nous, on est obligé de tout attacher, les bonbons, les cartes postales. Alors, on a des miroirs, des systèmes de sécurité, mais ça ne suffit pas. Les clients ici, ils sont obligés d'avoir leur sac fermé, parce que s'ils ont le sac ouvert, ils peuvent voler un téléphone, etc. Avant, c'était de temps en temps. Mais maintenant, c'est systématique depuis le fameux 13 mai. Et voilà.
La Régie des tabacs a misé sur une baisse de 10% des ventes liées aux récentes augmentations. Mais cette baisse pourrait être plus importante en raison, bien sûr, de tous les départs et pertes d'emplois passés et à venir. On retrouve Pierre Emery, le chef de service de la Régie des tabacs.
Pour l'instant, on est dans nos prévisions. C'est un petit peu surprenant, mais bon, le tabac, c'est une drogue, donc c'est très addictif. Par contre, on imagine facilement, vu la situation économique des gens qui ont perdu leur travail et qui sont très nombreux, des entreprises qui vont fermer encore, on s'attend quand même à une baisse de la consommation. De quel ordre, ben, c'est difficile à dire, mais en tout état de cause, on suit ça de près pour pas être trop surpris en fin d'année s'il y avait une baisse drastique des recettes qui sont liées au tabac et qui financent essentiellement les hôpitaux, quoi. Voilà.
Comme de nombreux particuliers et entreprises du territoire, la Régie des tabacs fait face, elle aussi, à un autre problème, la demande de garanties des fournisseurs qui perdent confiance en la Nouvelle-Calédonie et demande donc des garanties que la Régie ne peut pas tenir.
Les fournisseurs, pour le tabac tout du moins, j'imagine pour tous les autres produits, bah c'est pareil, puisque maintenant ils ont peur de ne pas être payés. Du coup, ils demandent des garanties, et ce qui pose problème pour nous au niveau tabac, puisqu'on est une administration, donc on n'a en fait pas de garantie à donner, difficilement tout du moins. Donc on s'inquiète beaucoup, parce que les fournisseurs commencent à nous dire, bah nous on vous enverra votre tabac que quand on sera payé, ce qui n'est pas possible pour nous. Donc on espère quand même que la situation ici va se stabiliser et les fournisseurs qui sont attentifs à ça vont reprendre un peu confiance en nous et à l'historique qu'on a avec eux, quoi.
Pierre Emery, le chef de service de la Régie des tabacs, qui s'inquiète donc d'une perte de chiffre d'affaires qui, on le comprend, signifie une perte de rentrée fiscale à venir abonder le budget de la Nouvelle-Calédonie.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h52.
L'actualité dans la région avec ce drame à Cairns, dans le nord du pays. Un hélicoptère s'est écrasé sur le toit d'un hôtel avant de prendre feu. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Elles doivent notamment déterminer l'identité du pilote qui demeure un mystère. Jean-Pierre Zajac.
L'hélicoptère, un Robinson 44, s'est écrasé sur le toit de l'hôtel Hilton de Cairns, où il a immédiatement pris feu, quelques minutes avant 3 heures, heure de Nouméa, dans la nuit de dimanche à lundi. Son seul passager a été tué sur le coup en impact. L'appareil, qui n'a volé que 4 minutes, avait été volé un peu plus tôt du hangar de Nautilus Aviation, une compagnie spécialisée dans les vols à caractère touristique. Son directeur, Aaron Finn, a indiqué que le vol de l'hélicoptère était non planifié et non autorisé. Tous les pilotes de la compagnie ont depuis été contactés, mais, a déclaré Aaron Finn, il est possible qu'un autre employé de la société a pu être impliqué, ce que la police de Cairns et le Bureau national de sécurité des transports cherchent maintenant à établir. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Restons en Australie pour parler des Jeux Olympiques 2024. Ils sont terminés, vous le savez, la France est arrivée cinquième au classement général, mais juste derrière l'Australie, Charlotte Coulson.
Et oui, avec ses 53 médailles, dont 18 en or, le pays océanien se hausse à la quatrième place du classement général. Un record de performance pour la nation voisine à la Calédonie. La compétition a d'ailleurs été suivie avec beaucoup d'attention par les ressortissants australiens présents sur le territoire. La consule générale d'Australie en Nouvelle-Calédonie, Anne-Lise Young, se dit particulièrement fière des prestations des athlètes australiens, une nation très sportive.
On est vraiment très fiers. Moi, je suis toujours très fière d'être australienne et surtout après les JO où l'Australie a eu notre meilleur résultat dans tous les JO avec 18 médailles d'or. Comme vous savez, on est un pays, et je dois avouer, un peu obsédé par le sport. On a été très performante en natation avec 7 médailles d'or. La plupart des habitants en Australie habitent à bord de la mer. Donc chaque enfant apprend la natation depuis la jeunesse, tout comme mais ici en Calédonie. On aurait bien aimé célébrer d'une façon plus large, mais on va le fêter entre notre équipe au sein du consulat à la place.
Et parmi les moments inoubliables, une prestation de la breakdanceuse Rachel Regan qui a particulièrement amusé Katie, une Australienne travaillant sur Nouméa.
Oui, j'étais avec ma famille pendant les Jeux olympiques. Nous avons bien profité des événements devant les monuments iconiques à Paris. En particulier, on a bien rigolé avec Regan, notre breakdancer. Elle a reçu la dernière place, mais elle a porté le danse kangourou sur les scènes internationales. Comme on a dit en Australie, le but, ce n'est pas toujours de gagner, mais de s'amuser.
Et l'Australie organisera à son tour les Jeux Olympiques. Ce sera dans 8 ans, en 2032, à Brisbane.
On se retrouve dans un instant pour une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Bodin.
Les Paris toujours marqués par les Jeux Olympiques, ils sont maintenant refermés. 17 millions de téléspectateurs ont suivi la cérémonie de clôture. Les athlètes quittent peu à peu la capitale française. 2000 d'entre eux se sont envolés la nuit dernière pour nous de Roissy. Des Jeux réussis, salués, dont on peut aussi tirer des enseignements, notamment en matière de sécurité, puisqu'aucun heurt n'a été signalé pendant la quinzaine olympique. 35 000 policiers et gendarmes ont assuré la sécurité. Ils étaient même 45 000 au moment de la cérémonie d'ouverture. Et plusieurs fois se font entendre pour que certaines améliorations en matière de sécurité demeurent après les Jeux Olympiques. Geoffrey Branger pour Europe 1.
A commencé par le chef de l'État ce midi qui était avec les professionnels mobilisés pendant les JO.
Ce qui a été fait, c'est une prouesse inédite en matière de sécurité. C'est une démonstration de force. Nous avons appris de ces Jeux et nous ne l'oublierons pas.
D'abord, les états-majors veulent faire durer les bons rapports qu'entretiennent les forces de l'ordre et la population depuis 15 jours. Et puis, les actes de délinquance ont fortement diminué avec la présence en nombre des autorités, mais aussi grâce à un fonctionnement administratif simplifié. Concrètement, depuis juillet, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, pilote tous les effectifs d'Île-de-France. Résultat, un meilleur partage des informations entre services et une vision globale permettant par exemple de mieux répondre aux besoins. Pour Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité, il faut absolument prolonger cet effort.
Il faut que cette période-là serve de référentiel pour l'avenir. On a le mode opératoire d'une vie beaucoup plus allégée, tranquille. Donc effectivement, on sait ce qu'il faut faire. Ça va peut-être passer par du recrutement encore plus d'effectifs. Quand on est présent sur le terrain, on fait reculer la délinquance.
Enfin, les tribunaux ont également profité de cette cohésion. Les audiences ont été plus nombreuses et plus rapides, comme les procédures d'exécution des peines, habituellement un des points faibles de la justice pénale française.
Les JO terminés, on attend maintenant la nomination du Premier ministre, dossier épineux sur lequel travaille le Président de la République. La candidate à Matignon désignée par le nouveau Front populaire, Lucie Castet, estime toujours que le poste lui revient de droit et elle a écrit une lettre aux parlementaires, explique Maïlène Trémolé.
Après l'euphorie des victoires françaises, place désormais à la course pour Matignon. À gauche, on veut surtout par cette lettre s'affirmer comme un bloc d'opposition unique, capable de faire pression sur le chef de l'État, Arthur Delaporte, député PS du Calvados.
Lucie Castet rappelle dans cette lettre que depuis le 7 juillet dernier, le pays n'a pas de gouvernement et pourtant il y a une majorité relative au Parlement et que la pratique institutionnelle, ça serait appelé à Matignon le bloc qui est arrivé en tête, même si c'est une situation de majorité relative. Le gouvernement s'obstine dans le déni de réalité.
Si le gouvernement écarte toujours l'hypothèse Lucie Castet à Matignon, Emmanuel Macron ne semble pas beaucoup plus avancé qu'avant les JO sur le successeur de Gabriel Attal. Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve restent à ce stade les deux noms les plus cités. Mais l'ancien ministre et commissaire européen Michel Barnier pourrait également obtenir les faveurs du président pour tendre la main à la droite. Le président qui pourrait surtout, malgré la pression de la classe politique, chercher à gagner du temps en laissant passer cette semaine marquée par plusieurs commémorations du débarquement dans le sud de la France.
Maïlène Trémolet pour Europe 1. À l'étranger, la Grèce demande de l'aide à l'Union européenne pour lutter contre les incendies. Des incendies qui font rage non loin d'Athènes, avec des fronts à une quinzaine de kilomètres seulement de la capitale. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lancé l'envoi de 55 camions et 180 pompiers et membres de la sécurité civile. L'Iran s'apprête à riposter aux frappes israéliennes qui ont causé la mort du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Washington croit savoir que cette riposte serait imminente. Le risque d'escalade existe dans la région. Le premier ministre canadien a même demandé à ses ressortissants de quitter le Liban. Et puis depuis une semaine maintenant, l'armée ukrainienne mène des offensives sur le territoire russe, notamment dans la région de Koursk, plutôt éloignée des zone du combat du Donbass. 121 000 civils russes ont été évacués de la région. On fait le point avec Winfried de Villers.
Après 7 jours d'offensive, ce sont 28 localités de la région de Koursk qui sont passées sous contrôle ukrainien. Voilà ce qu'a reconnu officiellement le gouverneur de la région, Alexei Smirnov. Plus marquant encore, les forces ukrainiennes ont pénétré en profondeur en territoire russe, 12 kilomètres avec une ligne de front qui s'étend sur 40. Une contre-offensive surprise dans une région frontalière où il y avait jusqu'à maintenant peu de tensions, loin du Donbass et de ses combats acharnés. Une façon peut-être de contraindre les Russes à diviser leurs forces. Le général Dominique Trinquant est l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
En montant une opération dans une autre zone, elle contraint les Russes à revoir leur stratégie et à consacrer des forces qui étaient prévues pour le Donetsk ailleurs. Et donc alléger la pression qui se fait sur les forces ukrainiennes.
En l'espace d'une semaine, les Ukrainiens ont pris le contrôle d'un territoire comparable à ce que la Russie a conquis en Ukraine depuis début 2023. Mais encore faut-il que Kiev parvienne à maintenir cette pression.
Ça me paraît difficile pour l'Ukraine, en l'état actuel, de tenir ces zones-là. Il faut se souvenir que l'Ukraine mobilise actuellement, mais qu'elle n'a pas formé les troupes, et que donc, à mon avis, elle va manquer de troupes pour tenir les positions sur lesquelles elle est aujourd'hui.
De son côté, Vladimir Poutine, le président russe, a promis d'expulser les forces ukrainiennes de la région de Koursk.
Winfried de Villers, pardon, pour Europe 1. Il est midi et une minute. Dans un instant, quelques mots de sport avant de retrouver ensuite le magazine citoyen.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Alors, 3 ans de garantie, plus 3 ans d'entretien, plus 200 000 francs d'avantage client, ça nous fait...
Pas la peine de chercher, Mini a fait le calcul pour vous. 3 ans de garantie, plus 3 ans d'entretien, plus 200 000 francs d'avantage, au total, ça vous donne toutes les bonnes raisons de vous offrir une Mini.
Alors, Mini 3 portes pour le fun, Mini 5 portes pour l'espace ou Mini Countryman pour l'aventure? À vous de choisir la Mini de votre vie en profitant de ses offres limitées avant le 31 août au showroom Mini chez Prestige Motors au 6e kilomètre. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et jusqu'au 30 août 2024. Entretien simple 3 ans aux 36 000 km, premier terme échu. Garantie 3 ans aux 200 000 km, premier terme échu. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomag avec le sport. Et avant de retrouver Jean-François Baudin, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et après la clôture des Jeux Olympiques, la vie sportive se retrouve sur ses terrains de jeux habituels. On va notamment parler du lancement de la grande boucle cyclisme chez les femmes. Nicolas Legrand, c'était la première étape du Tour de France entre Rotterdam et La Haye.
Oui, et Charlotte Kuhl s'impose au sprint sur ses terres. La Néerlandaise remporte l'étape et s'empare du maillot jaune et du maillot vert. Les coéquipières de Charlotte Kuhl sont donc aux commandes de ce début d'épreuve. Une autre Néerlandaise devrait se montrer dans quelques étapes. Demi Vollering, la tenante du titre, semble presque intouchable, hein, notamment en montagne. Rendez-vous donc demain pour deux étapes. Hein. Une première de 69,7 km entre Dordrecht et Rotterdam, qui pourrait se jouer au sprint là aussi, suivie d'un contre-la-montre de 6,3 km en individuel.
Et le circuit mondial de tennis a également repris et c'était jour de finale à l'Open du Canada.
Vous voyez, chez les femmes, c'était une finale 100% américaine qui a tourné à l'avantage de Jessica Pegula face à Amanda Anisimova. Une victoire en 3-7, 6-3, 2-6, 6-1. Et chez les hommes, ça joue en ce moment entre le russe Andrei Rublev qui est opposé à l'australien Alexei Pipirin. Le premier set a été remporté par notre voisin australien Pipirin, 6-2, et on joue en ce moment le deuxième set.
Et puis notez que les rugbymen français Oscar Jégou et Hugo Oradou ont été remis en liberté, mais ils sont obligés de rester en Argentine. Je vous rappelle qu'ils sont mis en examen pour viol avec violence en réunion après un test match début juillet. La version de la plaignante, une Argentine de 39 ans, n'a pas été jugée assez solide par la justice argentine. Les inculpés reconnaissent une relation sexuelle, mais ils affirment qu'elle était consentie et nient toute violence.